Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Emil Neligan est né à Montréal le 24 décembre 1879.
Son père était irlandais et sa mère était une Canadienne française, Émilie Amanda Hudon. Je crois que c'était un ménage assez uni, mais dispersé par les circonstances, parce que M. Neligan était inspecteur des postes et donc très souvent absent. Mme Neligan n'a eu que 3 enfants, Émile, son fils aîné, et 2 filles. Et il semble qu'elle ait marqué une préférence assez nette pour Émile. En tout cas, c'était une personne extrêmement sensible. On m'a raconté qu'elle était même un peu scrupuleuse dans le sens où elle couvait un peu ce fils, essayant de lui aplanir toutes les difficultés, surtout auprès de son père, parce que M. Neligan était d'un tempérament assez sévère.
En 1887, la famille habite au 112 de l'avenue Laval, tout près du carré Saint-Louis, dans ce quartier alors réservé à la petite bourgeoisie. Cette année-là, Émile est inscrit en deuxième année à l'école Ollier, avenue des Pins. Le 2 septembre 1890, il entre au Mont-Saint-Louis comme externe. À l'âge de 15 ans, on le retrouve en élément latin au petit séminaire de Montréal. Dans ces années-là, les Neligan passent tous leurs étés à Kakuna, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Pendant que le père fait la tournée des bureaux de poste de la Gaspésie, Mme Neligan et ses enfants vont se balader sur la plage et prennent le thé sur la pelouse. À Kakuna, Émile se révèle comme un petit garçon fort espiègle, qui n'hésitera pas à enfermer 2 vieilles demoiselles de son voisinage dans le petit endroit au fond du jardin, ou alors il montera sur le toit et sautera pour les effrayer. On dit qu'Émile Neligan aimait beaucoup les dentelles de bois, les fausses tourelles et les balcons romantiques de ses maisons de grand tourisme. Les Neligan habitaient cette immense pension de famille. Et la chambre d'Émile donnait sur la mer. En 1896, la famille est déménagée, depuis quelques années, au 260 de l'avenue Laval. La chambre d'Émile donne sur le balcon. Elle est dénudée, comme la cellule d'un moine. Personne d'autre que sa mère et lui n'ont droit d'y entrer. Neligan entre au collège de Sainte-Marie. Cette année-là, il va publier ses premiers poèmes.
Maintenant, il y a un trait. Quand il était chez les Jésuites, c'est un de ses oncles qui était son professeur, un oncle Hudon. Et un jour, Neligan avait fait son devoir ou sa dissertation en vers. Alors, l'oncle a cru bien faire de lire à haute voix le devoir de son neveu et de le persifler un peu, persifler les mauvais vers, en lui faisant reproche, plutôt que d'écrire des vers, d'étudier ses leçons ou quelque chose. Mais il a tellement blessé l'orgueil de Neligan que ça a été pratiquement la raison pour laquelle il a quitté le collège Sainte-Marie. Une fois qu'il a rompu avec le collège, eh bien, il n'y a plus qu'une seule pensée qui l'a habité, ça a été la poésie. Sauf peut-être une tentative qu'il a faite d'étudier la musique. C'est assez intéressant, c'est un détail qui n'est pas bien connu, mais il s'était enthousiasmé pour le violon. Il y a beaucoup de violon dans son œuvre. Et il a essayé de jouer le violon comme il aurait essayé d'écrire des poèmes. Mais c'était beaucoup plus difficile. Alors, il a pris quelques leçons et il a abandonné.
Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène. Et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre. Immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose, entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve.
Est-ce qu'il y a des lieux qu'il préférait pour ce travail, ou est-ce qu'il y a aussi un certain temps, le jour ou la nuit?
Les lieux, on ne sait pas bien. On ne le voit pas d'ailleurs assis à une table de travail et appliquer de longues heures consécutives à écrire un poème. Son poème, il le pensait en marchant partout où il était. Il pouvait s'arrêter n'importe où pour l'écrire. Mais sûrement que la nuit était pour lui une inspiratrice. Et c'est un témoignage que j'ai recueilli à plusieurs reprises de témoins tout à fait véridiques. À plusieurs reprises, il s'était laissé enfermer dans des chapelles, si vous voulez, pour créer des poèmes ou avoir des impressions qui l'amèneraient à créer des poèmes religieux ou mystiques.
Est-ce qu'il y avait des amis?
Des amis, oui, il a eu beaucoup, beaucoup d'amis, des camarades surtout. Je ne sais pas s'il a eu des amis à qui il a pu se confier entièrement, sauf peut-être Louis Dantin, mais sur le plan poétique.
Est-ce qu'on lui connaît des amours?
On connaît le nom de quelques jeunes filles qu'il aurait fréquentées d'assez loin. On m'a souvent parlé d'une jeune fille qu'il aurait aimée, qui aurait été poète aussi, mais elle était déjà morte et il a été difficile de suivre cette piste. Son nom était Marie Beaupré, si quelqu'un se rappelle ou si quelqu'un peut suivre à la piste, Marie Beaupré aurait peut-être conservé des manuscrits ou des poèmes de Nelligan parce que, étant poétesse elle-même, ils ont certainement dû échanger quelques vers. Mais c'était un idéaliste. Alors, la femme, pour lui, était peut-être un personnage de même nature que celle qui a inspiré Gérard de Nerval. C'est une sorte d'Aurélia. Alors on voit passer dans ses poèmes et aussi dans sa vie, dans les souvenirs que j'ai recueillis sur lui, on voit passer une blonde allemande qu'il appelle Gretchen. Et elle revient à quelques reprises dans ses poèmes. Et quand il parle de Gretchen, c'est comme s'il disait la femme avec une F majuscule.
À Montréal, à la fin du siècle, les jeunes poètes et écrivains commencent à former des groupes. Ils se réunissent pour échanger des propos sur leur lecture ou leurs œuvres, ou pour déclamer des poèmes. C'est ainsi que naît l'école littéraire. Emil Nelligan y entre au cours de l'hiver 1899. En dehors de ses nombreuses réunions privées, l'école littéraire tient des séances publiques pour permettre à ses membres de se mieux faire connaître. Ces séances ont lieu au Monument National ou au Château de Ramsey. C'est ici, le 26 mai 1899, que Nelligan donne la romance du vin. Nelligan connaîtra quelques jours de triomphe, mais ce soir-là, il aura apparu pour la dernière fois en public.
Pendant la période qui a précédé immédiatement sa chute, sa maladie, est-ce qu'on avait décelé dans son entourage des signes avant-coureurs?
Eh bien, on voyait bien qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait s'adapter à aucun travail rémunérateur, si vous voulez. Et sa conduite pouvait sembler assez étrange, mais il n'avait que 19 ans. Alors on le considérait comme un grand garçon dont l'adolescence, si vous voulez, se prolongeait à ce point de vue. Mais peut-être avait-on décelé certains signes, mais on n'en avait pas fait part. Aujourd'hui, on peut en retracer quelques indices dans quelques-uns des poèmes posthumes, tous ces poèmes hallucinatoires, où il y a des spectres, des fantômes. C'était sans aucun doute des visions qu'il y avait. C'était pas pour lui un jeu littéraire, c'était vraiment des poèmes vécus.
Le 9 août 1899, à 19 ans, Nelligan est hospitalisé à la retraite Saint-Benoît. Il n'en sortira qu'en 1925 pour passer à Saint-Jean-de-Dieu. Un neveu de Nelligan nous dit le désarroi de sa mère.
Quand il est tombé malade, elle ne l'a revu qu'une fois. Et elle est morte quand même 14 ans après. Elle ne l'a revu qu'une fois, elle n'a plus voulu le revoir. Et elle-même a sombré dans une sorte de neurasthénie. Elle était neurasthénique.
Mais elle entretenait le souvenir de son fils. Sans aucun doute qu'ici, vous avez un feuillet de scrapbook qui a été préparé de la main de Mme Nelligan. Il porte la date du 16 septembre 1999. Émile est tombé malade le 9 août 1899. Et le 16 septembre, pourquoi cette date du 16 septembre? Eh bien, c'est parce que à ce moment, paraît dans un journal, dans La Patrie, un poème intitulé « Les Saintes de Vitrail ». Alors, Mme Nelligan commence à recueillir et à coller dans un scrapbook les poèmes de son fils à cette date du 16 septembre, donc un mois à peine, et plus un mois et une semaine après la maladie de son fils.
En 1932, on permet à des amis de Nelligan de l'amener chez eux pour dîner. On traverse le quartier du Carré Saint-Louis, que le poète n'a plus revu depuis 1899. Camille Ducharme était du voyage.
On s'amène tranquillement. Carré Saint-Louis a juste certaines verbiques, un petit sourire. Il dit, ah, le Carré Saint-Louis. Et là-bas, la rue Laval, c'est là que j'habite. Il n'a pas dit j'habitais, que j'habite.
Ce jour-là, Nelligan autographie un recueil de ses œuvres et donne son adresse, rue Laval.
Mais je persiste à croire et je demeure convaincu que cet homme a souffert et se rendait compte, un compte exact de sa situation.
Est-ce qu'il savait exactement ce qu'il avait?
Je pense, oui, parce que je me rappelle un jour de lui avoir demandé s'il écrivait encore. Il m'a dit oui, un petit peu. Mais vous savez, je me rappelle, ce sont ses propres mots, depuis le déclenchement de l'inspiration, il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien dire.
Il y a 25 ans, Émile Nelligen mourait à Saint-Jean-de-Dieu.